Vous écoutez France Culture.
Un principe absolu, avoir beaucoup de maîtres et pas un seul.
Lorsqu'on crée des personnages, on ne sait plus si on les a vraiment créés ou si on se souvient de quelque chose.
Il y a un contrat entre moi et moi d'authenticité, de véracité, etc. Mais pour approcher cette véracité, il faut que je la construise, donc il faut parfois que j'aille rechercher moi-même.
Le Carnet d'or, une émission d'Augustin Trapenard.
Je compose en marchant, sans noter les choses. Je les note quand je rentre chez moi, mais il faut que je m'en souvienne. Alors, c'est pour ça qu'une bonne petite forme bien marquée, ça aide à se souvenir.
On écrit quand même à partir de soi.
On n'écrit pas à partir de soi, de la tour d'ivoire. Tout ça, je déteste toutes ces conceptions de la littérature. On écrit à partir de la trace des autres en soi.
Ce qui est important justement en littérature, c'est de faire émerger les choses internes. Parce que si c'est pour dire ce qu'on voit, ce que l'on sent, à mon avis, ça n'a pas tellement d'intérêt.
Pour moi, il y a quand même une transe où on ne sait, c'est justement à partir du moment où on ne sait plus exactement qui on est, qu'on est dans la transe de l'écriture, donc on est dans une remise en question même de cette question de l'identité.
Bonjour et bienvenue dans le Carnet d'or, le magazine littéraire de France Culture. Chaque semaine, trois écrivains autour d'un thème, d'une actualité, d'un enjeu d'écriture pour tracer avec leur voix cette carte du paysage littéraire. Les voix qu'on vient d'entendre, ce sont celles de Jacques Roubaud, Gisèle Fournier et Yves Pagès, mes invités de samedi dernier, qui passent leur plume de parole aux trois écrivains qui m'entourent aujourd'hui. Trois écrivains qui explorent dans leur dernier texte la forme brève, court roman, longue nouvelle ou novella, comme on dit là-bas. Bonjour Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Bonjour.
Bonjour Véronique Bizot.
Bonjour.
Et bonjour Nicolas Cavaillas.
Bonjour.
Jean-Marie Le Clézio, ce n'est pas tous les samedis que le Carnet d'or peut s'enorgueillir de la présence d'un prix Nobel, ce sera le cas aujourd'hui, pour parler de Tempête, votre nouveau livre qui rassemble deux novellas, donc deux destins de jeunes filles qui disent bouleversantes la fin de l'innocence et la quête aussi d'un sentiment d'appartenance. Véronique Bizot, Âme qui vive est également un texte bref qui fait la part belle au silence, à l'ellipse, au non-dit. D'âme qui vive, il n'y en a pas dans cette campagne qui donne son cadre à votre roman, sinon quatre quidams coupés du monde, mais qui vont s'ouvrir, non sans un certain sens de l'absurde et de l'ironie, à la possibilité d'un avenir. Enfin, Nicolas Cavaillès, votre vie de Monsieur Legat vient d'être sacrée par le Goncourt de la Nouvelle. Ce Monsieur Legat, huguenot bressant, forcé après la révocation de l'édit de Nantes à l'exil, au voyage, à la rêverie, peut-être jusqu'à l'épuisement. Mais cette histoire vraie, est-ce une nouvelle précisément? Ou un court premier roman? Est-ce une vie tout simplement? Pourquoi pas une novella? Merci beaucoup à tous les trois d'être là donc pour ce plateau du Carnet d'or, plus que jamais centré sur l'expérience de la création, avec cette question formelle de la novella. Quelques mots pour commencer que j'ai tiré de Tempête, Jean-Marie Gustave Le Clézio. En fait, c'est un titre qui est devenu un sous-titre de novella, tout simplement. Et vous nous racontez peut-être l'histoire éditoriale de Tempête, parce que c'est ainsi, je crois, que le texte devait s'intituler de novella, c'est ça?
Oui, oui, j'avais pensé... J'ai toujours un peu de difficulté à trouver des titres, et je pensais que deux novellas, c'était très bien. Et j'en avais parlé à un journaliste canadien qui m'a dit « Oh, c'est formidable !» Mais en fin de compte, je crois que l'éditeur a raison de ne pas se contenter de ce titre trop bref.
Mais pour vous, c'était l'occasion d'insister sur la forme, sur une recherche formelle, en appelant ça deux novellas?
Oui, oui, parce que moi j'aime beaucoup la nouvelle, et la novella c'est un peu plus long que la nouvelle. C'est un genre qu'on ne connaît pas trop en France, et un genre qui a été pratiqué par Conrad, mais aussi évidemment par Maupassant. Et puis j'aime bien le nom, le mot novella, pour moi ça sonne bien, j'aime bien ce nom d'origine italienne.
Adopté par les anglo-saxons?
Oui, c'est eux qui en ont fait un genre, et... Parce qu'il y a la short story, la courte histoire, bon, et c'est effectivement ça, c'est court. Et il y a le novel, et là entre les deux, il y a un petit roman, une longue nouvelle.
C'est dans cet entre-deux en fait que vous définissez cette forme, parce que vous avez exploré d'autres formes courtes hein, de l'histoire à la nouvelle, en passant par la fantaisie justement.
Oui, parce que la nouvelle ne laisse peut-être pas le temps de... C'est une question de distance, la nouvelle ne laisse pas le temps d'aller jusqu'au bout de certains thèmes. Et la novella permet d'éliminer le caractère pesant du roman, qui doit lui être très détaillé, très approfondi.
Nicolas Cavaillès, la question de la forme, il semble que tout le monde se la pose au regard de votre vie de Monsieur Le Gars, parce que le texte s'intitule Vie, ce qui est déjà un mode littéraire en soi. Il a été nommé au concours du premier roman et il a fini par remporter le concours de la nouvelle. Il y a une sorte de flottement générique ici, c'était le cas aussi pour vous?
Oui, il y a eu beaucoup de péripéties, effectivement, des questions génériques, mais non, moi j'avais d'abord envisagé d'en faire un roman, et puis finalement, on peut parler de vie, comme vous le disiez en introduction, la vie comme genre littéraire aussi. Je trouvais que faire un roman à partir de l'histoire de Le Gars, il y avait un petit côté artificiel qui me mettait mal à l'aise, donc j'ai voulu aller au plus près de l'esprit de l'époque, dans le fond, et donc revenir à ce genre qui est un peu désuet aujourd'hui, de la vie, qui a cette manière d'aller à l'essentiel, qui est là encore, c'est pas non plus une biographie comme on aurait pu le penser aussi. C'est, il y a une densité, et puis traditionnellement la vie c'est centré sur les choses remarquables d'une vie. Là encore, c'est un genre qui est antérieur à l'irruption du roman moderne où on peut se permettre le luxe de détails. Dans la vie, c'est l'essentiel d'une destinée, et c'est ce qui m'intéressait de traiter, en fait.
On vous interroge souvent, Véronique Bizot, vous aussi, sur la brièveté de vos textes et sur leur genre, précisément. Vous qui êtes également, je crois, nouvelliste, comment vous le considérez, ce texte-là, Âme qui vive?
Pour moi, la question de la longueur, c'est la forme courte, longue, et tout, c'est une question de calibrage. Je ne me préoccupe pas du tout de ça quand j'écris. Peut-être que la brièveté permet de concentrer... de se concentrer sur les questions essentielles. Moi, l'histoire est terminée quand je sens qu'elle est terminée, quand j'ai fait le tour d'une question, et j'en aborde pas 150 000 dans ce que j'écris. Dans ce dernier livre, il était question de la solitude et du silence, et ce qui m'intéressait, j'imagine, c'était la confrontation de ce groupe de quatre hommes et leur coexistence dans ce paysage un peu dépeuplé, et le livre avançant, il y a un mouvement de fragmentation du groupe, et dès lors que le groupe n'existe plus, pour moi c'est terminé.
C'est intéressant cette question, que dit en réalité la brièveté, qu'est-ce qu'elle impose, qu'est-ce qu'il impose? C'est l'une des questions qu'on se pose d'ailleurs en lisant vos textes à tous les trois. Jean-Marie Le Clézio, ces deux histoires, Tempête et Une femme sans identité, elles ne pouvaient qu'être brèves pour vous, ou elles auraient pu devenir romans?
Quand je commence à écrire, je ne réfléchis pas vraiment à la longueur que le texte va prendre. Oui, c'est cela, c'est parce que les thèmes appellent la distance qui va être parcourue. Et lorsque ces thèmes ont été parcourus, bon, c'est la nouvelle est terminée, mais ce n'est pas... chacun de ces textes aurait pu être un roman, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que je l'écrirais, ou peut-être c'est toujours le même roman qui a des formes différentes.
En tout cas, il y a quand même des conventions dans la forme courte, là, la condensation, l'ellipse, que l'on retrouve hein, dans vos textes à tous les trois. Toutes ces conventions qu'impose la brièveté, ça demande en particulier relecture, retravail, coupe, peut-être?
Oui, pour moi, coupe, certainement, parce que on est obligé, lorsqu'on pratique ce genre, j'aime pas beaucoup le mot genre, j'aime pas beaucoup même la définition de ces genres entre eux, mais lorsqu'on pratique cette longueur, on est bien obligé de couper certaines choses, de passer sous silence d'autres. Il y a tout ce qui n'est pas dit, en fin de compte.
Vous aussi, Véronique Bizot, vous coupez quand même?
Non, moi je coupe pas. Je coupe pas. Mais j'ai pas vraiment besoin de couper. Cela dit, oui, je suis d'accord que cette histoire de longueur n'est pas essentielle. Enfin, moi je prémédite pas du tout quoi que ce soit. Mais j'ai pas envie d'une histoire pleine comme un œuf. J'ai envie d'une histoire dans laquelle, l'imagination puisse circuler.
L'imagination du lecteur?
Oui, l'imagination. Et la mienne aussi. Parce que moi, j'ai vraiment besoin d'en savoir le minimum sur les personnages. Enfin, d'en savoir ce que j'ai besoin et envie d'en savoir.
Ça voudrait dire, quelque part, que la brièveté ouvre le sens, en fait.
Absolument,
aussi.
Oui.
C'est le cas aussi pour vous, Nicolas Cavaillès?
Cette vie est assez particulière par rapport aux deux autres ouvrages dont on parle aujourd'hui. Paradoxalement, on peut parler de vie, mais dans mon optique, c'était surtout un livre sur la mort et sur tout le cheminement jusqu'à la mort, et dans le cas de Lega, l'exil qui est une première mort avant l'heure, ou le fait de renoncer à tout, qui dans son cas a amené une résurrection. Mais du coup, dans cette brièveté, c'est une manière de prendre du recul ou de la hauteur par rapport aux choses, et comme un révélateur, comme un miroir un peu grossissant qui est... pas tellement pour ouvrir les choses, mais il y a une cruauté plutôt de dire finalement une vie, ce n'est que ça.
C'est assez gonflé de votre part, Nicolas Gafaïès, d'entrer en littérature par un texte aussi court, à l'heure on le sait, où la nouvelle, où la forme courte n'a pas forcément bonne presse, en librairie hein, notamment, ce sont des textes qui ne sont pas évidents à lire. Vous en avez conscience ?
Oui, je m'étonne encore qu'il y ait une maison d'édition par ailleurs excellente qui ait bien voulu publier ce texte.
Les éditions du Sonneur.
Qui ne ressemble pas à grand chose dans le... au jour d'aujourd'hui, même si bon, il y a une vieille tradition derrière.
Il s'agit pour vous aussi de la défendre, de la réhabiliter, cette forme ?
C'est un genre intéressant, de toute façon, aussi. Oui.
Ça a pu vous inquiéter, vous aussi, ou inquiéter peut-être vos éditeurs, Véronique Bizot, le fait que la plupart de textes sont plus courts ?
Ils n'ont pas l'air inquiets. Moi, je pourrais m'inquiéter, mais...
C'est le cas ?
Parce qu'une fois, une éditrice assez célèbre... J'avais commencé par deux recueils de nouvelles et m'a dit « Vous n'existerez pas tant que vous n'aurez pas écrit un roman ». Et ça m'est tombé vraiment comme une espèce de coup près. Et du coup, j'ai essayé de faire plus long, donc de faire... mais bon, c'est ma distance, c'est celle-là pour l'instant.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je m'adresse à la lectrice autant qu'à l'auteur, ce désaveu de la forme courte, quelque part. Comment vous l'interprétez?
Moi, en tant que lectrice, j'ai un peu de mal avec les nouvelles. J'ai vraiment besoin de pouvoir m'installer dans un texte. Donc je préférais le format novella. En tant qu'auteur, j'ai beaucoup de plaisir à écrire des nouvelles.
C'est le roman, peut-être, Jean-Marie Leclésio, qui prend de plus en plus de place et qui finit par étouffer la nouvelle.
Oui, ce drame s'est passé au 19e siècle. Il y avait beaucoup d'écrivains qui travaillait sur cette distance-là, Barbey d'Aurevilly, tous ces grands écrivains du 19e siècle pratiquaient la longue nouvelle. Et puis, je ne sais pas à quoi ça a été dû, peut-être à la publication en feuilleton. Le roman est devenu de plus en plus lourd et de plus en plus important. Et je crois qu'il y a quelque chose comme une espèce de tyrannie du volume. Il faut que ce soit... que soit long. Peut-être qu'il faut que ça puisse durer plus qu'une nuit, que la lecture dure pendant plusieurs jours.
Qu'on en ait pour son argent, peut-être.
Qu'on en ait pour son argent, qu'on puisse prendre le métro et avancer, puis mettre un marque-page et reprendre le jour suivant.
Mais c'est le cas aussi dans votre deux novellas, dont on va parler maintenant, Jean-Marie Leclésio. On va se penser ensemble sur ce livre, Tempête, qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Vous avez voulu entendre en interlude quelques notes d'une danse de Chostakovitch. Vous écoutez France Culture, vive la littérature. La mer, c'est elle que j'aime plus que tout au monde. Depuis que je suis toute petite, j'ai passé la plus grande partie de mon temps avec la mer. Quand nous sommes arrivés dans cette île, ma mère a d'abord travaillé dans les restaurants de coquillages. Elle y allait tôt le matin et elle m'installait dans ma poussette, dans un coin, pour que je ne dérange personne. Elle nettoyait le ciment à la brosse, elle lavait les bacs et les marmites, elle balayait la cour et elle brûlait les ordures. Ensuite, elle travaillait à la cuisine, à hacher les oignons, à laver les coquillages, puis à préparer les légumes, de la soupe et couper les poissons pour les sushis. Moi, je restais dans ma poussette sans rien dire, à la regarder. Il paraît que j'étais très sage. Je ne voulais pas aller jouer dehors. La propriétaire disait « Qu'est-ce qu'elle a, cette petite ? On dirait qu'elle a peur de tout. » Mais moi, je n'avais pas peur de tout. Je restais pour protéger ma mère, pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. Puis un jour, maman en a eu assez d'être la domestique de ces gens. Elle s'est mise d'accord avec les vieilles qui apportaient les coquillages et elle est devenue, elle aussi, une femme de la mer. C'est une page de Tempête, Jean-Marie Le Clésio, sur une danse fantastique de Shostakovitch. La première de vos deux nouvelles s'appelle Tempête, et c'est de ce texte qui est tiré donc l'extrait que je viens de lire. Et elle met en scène l'initiation d'une jeune fille, June, sur l'île d'Udo, dans la mer du Japon. Puis il y a une seconde novella qui nous emmène là, du Ghana au Kremlin-Bicêtre, et puis en retour en Afrique. Et on va suivre les errances et la quête d'un sentiment d'appartenance d'une autre jeune fille déchirante, qui s'appelle Rachel. Deux femmes, Jean-Marie Le Clésio, deux jeunes femmes. Quel défi est-ce que cela représentait pour vous, en tant qu'écrivain?
Vous voulez dire de me mettre dans la peau de jeune femme?
Sans doute.
Oui, moi j'aime bien... J'aime bien voyager en écrivant, j'aime bien changer de personne, et donc de sexe. Et pour moi, ce n'est pas un défi, ça fait partie des grandes joies de l'écriture que de devenir quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas pour moi quelque situation plus dépaysante que celle-là. Et en même temps, moi j'ai des filles qui ont à peu près l'âge des personnages que je décris. Et je les observe et je me sens très proche d'elles. Donc c'est un va-et-vient entre le réel et l'imaginaire.
Je vous ai entendu dire un jour, dans une interview, que la littérature était pour vous quelque chose d'essentiellement féminin.
J'aime beaucoup le caractère féminin de l'écriture, parce que bon, c'est pas parce que c'est une femme qui écrit que c'est plus féminin, mais dans le fait d'écrire, dans le fait de compter, pour moi, il y a quelque chose qui représente... la féminité absolue. Et peut-être parce que j'ai commencé par écouter des femmes qui me parlaient, qui racontaient des histoires. Ma grand-mère, notamment, était une conteuse extraordinaire. Et dans les années qui ont suivi la guerre, où il n'y avait pas beaucoup de livres à lire, il n'y avait pas beaucoup de distractions, on n'avait pas de télévision, évidemment, ni même de radio, ma grand-mère meublait ce silence et cette difficulté de vivre en inventant des histoires d'un singe qui s'appelait Zako. C'était un personnage de roman. Chaque jour, elle apportait une histoire différente. Et je crois que j'ai gardé dans l'oreille les intonations, la subtilité de ses contes. C'était vraiment de la littérature en train de se construire. Et peut-être pour ça, j'ai ce préjugé que la littérature est quelque chose de féminin.
Il ne m'a pas échappé que dans la première novella, il y a un personnage de photographe, écrivain, qui se nourrit quelque part de sa rencontre avec une jeune fille, cette jeune fille qui s'appelle June. Il y a un peu de cette expérience-là, peut-être, que vous racontez en creux.
Oui, c'est un personnage réel. Moi, j'ai rencontré ce personnage d'ogre, quelqu'un qui dévore l'actualité, dévore les êtres, et finalement est acculé à la prison parce qu'il a été témoin d'un viol et il n'a pas dénoncé. Et donc ce personnage s'est imposé pour moi comme la contrepartie, le répondant du personnage de June, qui est, elle, un personnage rempli de fraîcheur et de simplicité. Et il y a un passage de l'un à l'autre. Ce n'est pas une histoire d'amour, parce que l'homme est très âgé, la fille est très jeune, mais c'est un échange de personnalité. Et moi, je voulais vraiment qu'il y ait ce personnage très dur en face, qui a vu la guerre, qui a vu vraiment des choses terribles, ces choses que l'on n'oublie jamais, et qu'il ait en face de lui quelqu'un qui ne connaît rien à la vie, mais qui va lui apprendre ce qu'est la vie.
Vous disiez tout à l'heure quelque chose que je trouve très intéressant, cette idée que par l'acte de l'écriture, vous devenez quelqu'un d'autre. Et ce devenir autre, je le trouve central dans ces deux textes, en particulier pour rester sur cette première novella, parce qu'il est vraiment mis en scène quelque part à travers ces femmes de votre texte qui plongent pour pêcher, ces femmes de la mer, et qui font corps, littéralement, avec la mer jusqu'à l'épouser quelque part, jusqu'à devenir marine.
Oui, c'est moi. J'aurais beaucoup de difficultés à parler de moi-même directement, et je ne peux aborder ma mémoire et je ne peux aborder mon imaginaire que si je me dédouble, et donc c'est en créant des personnages, mais aussi en imaginant ce que sont des personnages secondaires, tout ce qui est autour des personnages principaux, comme ces femmes de la mer. Je les ai rencontrés il y a très longtemps, en feuilletant un magazine que mon père achetait régulièrement, qui était le National Geographical Magazine. C'était dans les années 50, au Japon, des femmes qui plongeaient pour pêcher des oursins, des coquillages, des pieuvres. Et à l'époque, ces femmes étaient jeunes. Il y avait un côté tout à fait presque érotique dans cette histoire de femmes qui plongent presque nues en apnée avec des pierres attachées à la ceinture. Et je les ai revues 60 ans plus tard, pratiquement, dans cette île de Udo, où elles sont toutes vieilles. Elles ont 80 ans. Elles continuent à pêcher. Et pour moi, c'était la personnification de la mer, c'était des personnes qui incarnaient totalement l'océan.
D'ailleurs, la mer est vraiment omniprésente dans ce recueil de deux novellas. Je crois que la deuxième novella commence ainsi, j'ai tressailli devant la mer. Il y a un lien entre la mer, M-E-R, et la pratique de l'écriture pour vous ?
Je crois que ça remonte aussi là longtemps, parce que je n'ai jamais pu écrire loin de la mer. Ça a toujours été en arrière-plan. J'ai toujours eu besoin d'être près de la mer. C'est sûrement lié à mes origines, puisque je suis breton d'origine, que ma famille vit à l'île Maurice, et que les premiers livres que j'ai lus, parce que tout ça, ça passe par les livres, c'était Capitaine Courageux, des livres comme ça qu'on ne lit plus aujourd'hui. Donc des livres destinés à la jeunesse, et puis bien sûr Jules Verne, 20 milieux sous les mers, qui m'a beaucoup servi pour décrire ce qu'il y a sous l'eau, parce que moi, je ne sais pas plonger. Donc, je me suis inspiré plutôt de Jules Verne.
Alors, cette langue de la mer dont vous parlez dans ce texte, elle est essentiellement imaginaire ?
Oui, c'est ces femmes parlent cette langue, indubitablement. Quand on les entend sortir de l'eau, respirer et crier, elles apportent quelque chose des profondeurs. Alors, je ne sais pas si c'est un langage ou si c'est un langage primal, un langage essentiel, mais elle porte cette force et cette destruction, ce caractère nourricier en même temps mortel que porte la mer.
Il y a un lien pour vous entre la mer MER et la mer ME accent grave RE, entre le marin et le maternel ?
Oui, ça c'est dans la langue française, autrement, en dehors de cette langue, il n'y a pas beaucoup de liens. Non, c'est pas la mère qui porte les enfants, que j'associe à la mère, l'élément de la mère. C'est plutôt le courage de ces femmes qui plongent. Et ce courage, je l'attribuerais aussi aux mères de famille, parce que c'est très courageux de porter des enfants.
C'est vraiment deux textes sur l'expérience féminine, Jean-Marie Le Clézio. Et cette expérience féminine, elle a quelque chose de violent. D'ailleurs, les deux textes ont à l'intérieur des viols. C'est une expérience même fondatrice dans ces deux textes. Que dit cette rupture, cette cassure, cette violence sur le corps féminin pour vous ?
Il me semble que quand j'écris pour parler de moi-même, je parle aussi de la difficulté de vivre. Et cette difficulté de vivre, il me semble qu'elle est plus grande pour les femmes que pour les hommes en notre temps. Dans d'autres temps, je ne sais pas, mais j'écris de ce temps. Et il y a une violence terrible dans le monde quotidien aujourd'hui. Et je suis happé par cette violence. J'ai envie de l'écrire, pas pour la dénoncer, mais parce qu'elle est visible à chaque instant. Et comme je vous disais, j'ai des filles et mes filles me racontent des choses terribles de la vie quotidienne, des agressions continuelles. Et j'ai envie de parler de cette violence. Et la plus grande violence, le plus grand crime, c'est celui du viol. Et ce crime est souvent passé sous silence. Il n'apparaît pas beaucoup. Artemisia Gentileschi qui en a parlé, mais on n'en parle pas beaucoup. Et c'est un crime réel. Et donc pour moi, ça a été un des moteurs de l'écriture de ces deux nouvelles-là.
Parce que la littérature est le lieu, justement, pour faire surgir le non-dit, le tabou, l'indicible ?
Je crois qu'en effet, c'est un des endroits privilégiés pour cela. Sinon, où est-ce qu'on le trouve ? Quelle est la dimension humaine qui en parle ? La presse en parle, ça passe rapidement, c'est oublié tout de suite. quand c'est dans les romans ou quand c'est dans la peinture. Peut-être qu'on l'oublie moins vite. Ou dans le cinéma, il y a eu cela aussi. Le cinéma.
Vous avez donné récemment une belle interview au journal Libération à Claire Devarieux, dans laquelle vous disiez que le rôle de l'écrivain, quelque part, c'est de témoigner.
Oui, le rôle, ça paraît un peu sentencieux, mais pour moi, c'est vrai que si je n'ai pas quelque chose dont j'ai envie de témoigner, je ne vois pas la raison d'écrire. Et quand je lis un livre, la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi est-ce qu'il existe ce livre ? Qu'est-ce que l'auteur a voulu me dire à moi ?
Mais alors précisément, parce qu'en fait, c'est plus que témoigner. Vous leur offrez beaucoup plus que ça à vos deux héroïnes. Vous leur offrez la rédemption, la possibilité d'un renouveau, d'une renaissance.
Oui, j'aime bien l'idée que les monstruosités de notre monde ne sont pas définitives. J'aime bien penser qu'elles ont, non pas une solution, mais qu'elles permettent une ouverture. En fin de compte, ce que j'aime, c'est la vie. Ce n'est pas le crime ni la mort, c'est la vie. Mais on ne peut pas parler de la vie si on ne parle pas de la mort. Et on ne peut pas parler de l'harmonie et de l'amour si on ne parle pas de ce qui détruit l'amour et de ce qui brise l'harmonie.
Il ne m'aura pas échappé en lisant ces deux textes qui sont traversés évidemment par des lieux étrangers, par l'ailleurs. Jean-Marie Le Clézio, l'île du Dos, la Thaïlande, cette plage du Ghana qui est centrale dans la seconde novella. Le lieu, c'est toujours un point de départ pour vous.
Et oui, là, ce sont des lieux de mémoire. Donc, pour ce qui est de Udo, que je ne connaissais pas, le lieu de mémoire, c'était le magazine que mon père lisait et que je feuilletais quand j'avais une dizaine d'années. Et pour le Ghana, c'est parce que c'est là que j'ai vu la mer pour la première fois. Je sortais de la guerre et à l'issue d'un long voyage en bateau, ma mère, le bateau a accosté à Takoradi, au Ghana. Et ma mère, qui était très romanesque, a loué des chevaux. Et nous sommes allés, mon frère, ma mère et moi, à cheval, jusqu'à une plage. Et là, nous avons pris le premier bain de notre existence dans l'océan, et je n'oublierai jamais ce moment-là. Donc ça, c'est des lieux, c'est des moments de mémoire qui, après, marquent toute une vie et qui peuvent nourrir ce que l'on écrit.
Le lieu, point de départ de l'écriture, ça vous parle, Véronique Bizot ? Pour vous aussi, ce sont des paysages, des lieux ?
Oui, moi, je pars toujours d'un paysage aussi qui va donner une tonalité au récit, enfin, sa tonalité au récit, et qui va également... Enfin, me donner à moi la couleur mentale des personnages.
C'est le cas pour ce texte, Âmes qui vivent ?
Oui, c'était pas la mer, mais c'est quand même un paysage qui est décrit comme un paysage de montagne, mais à vrai dire très ouvert dans mon esprit. C'est presque un mélange de plaine et de montagne, enfin énormément d'espace.
Oui, c'est cet espace grand, un peu comme une page blanche quelque part, sur laquelle le texte pourrait s'écrire. On va parler de votre livre, Âmes qui vivent, Véronique Bizot, votre nouveau livre qui a paru chez Actes Sud récemment, juste après un extrait sur votre conseil de Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary, dans Le Carnet d'Or.
And all the jets are in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers merrily. Of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind.
À compter de ce jour, Fuchs, Montoya et mon frère ont pris l'habitude de se voir assez régulièrement, soit chez Fuchs, soit là-haut chez Montoya, quand Fuchs ne se déclarait pas trop fatigué pour monter. Je crois aussi que lui et Montoya se voyaient parfois seuls, de même que mon frère voyait parfois Montoya sans Fuchs. Lorsqu'ils étaient ensemble, tous les trois, j'avais remarqué que Fuchs s'exprimait davantage que s'il était seul avec mon frère et moi. Montoya, lui, ne disait pratiquement rien, et la plupart du temps, son visage disparaissait dans la fumée de son cigare. À le voir maintenant tellement silencieux, pour ainsi dire paisible, je m'étonnais du récit détaillé qu'il nous avait fait le jour où mon frère et moi l'avons connu, de son installation dans l'atelier du peintre Hawkes. Mais il est possible qu'il nous ait vu ce jour-là déboucher du tunnel comme un genre de secouriste, car après tout, et si déterminé qu'il fût alors à vivre dans l'isolement, il n'avait pas croisé âme qui vive depuis des semaines. Et je n'oubliais pas l'air qu'il avait eu à notre approche, celui d'un type sur le point de perdre tout contact avec la réalité. Et j'aime beaucoup cette page d'âme qui vive, Véronique Bizot, parce qu'elle contient le titre de votre livre, à un moment, âme qui vive, et parce qu'elle met en scène vos quatre personnages dans leur solitude, leur isolement, leur silence. Qu'est-ce qui les rapproche précisément à l'origine, ces personnages? Est-ce que c'est ce lieu, cette campagne isolée, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ou bien est-ce que c'est leur propre isolement? Je suppose que ça doit avoir quelque chose à voir.
Oui, ça, je pense que c'est les deux. Il y a cet espace très, très, très vacant. Et puis, il y a effectivement l'isolement de chacun. En même temps, ils se rapprochent, mais je ne sais pas s'ils communiquent vraiment. Mais ils ont besoin les uns des autres. Et puis, ce qui les rapproche peut-être aussi, c'est dans la mesure où il y a un auteur de théâtre, un traducteur et un lecteur. Peut-être que c'est aussi la littérature, les mots... comme une deuxième possibilité de vie.
Alors on va en parler évidemment parce que c'est central dans votre texte, qui à mon sens c'est vraiment un texte sur la création et sur la lecture et sur la littérature. Mais d'abord, tout cela est quand même, cet isolement dont vous parlez est quand même renforcé par le fait que vous avez choisi un narrateur pour lequel la parole ne va pas du tout de soi.
Oui, il est mutique, mais je dirais que c'est un mutisme volontaire. En fait, je pense qu'il n'est pas prêt à parler, à s'affirmer comme sujet. Ça me permettait d'avoir quelqu'un de très observateur. Moins il parle, plus il observe, donc plus il ressent. Et plus il développe une acuité et voilà, quelque chose qui va par la suite lui permettre de commencer à vivre par lui-même.
C'est une figure de l'écrivain que vous êtes?
Tout écrivain, je pense, est voué, consacré à la solitude.
C'est assez difficile, hein, il faut le dire, Véronique Bizot, de raconter un peu ce qui se joue dans ce texte, Âme qui vive, qui est un texte d'atmosphère, à mon sens. Peut-être aussi un texte de mystère. Vous-même, est-ce que vous en avez toutes les clés?
Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne cherche vraiment pas à savoir grand-chose. Il n'y a pas vraiment de mystère pour moi. Je veux dire, tout ce que j'écris me paraît vraisemblable, plausible, susceptible d'arriver dans la réalité. Mais peut-être que ce que je mets en avant... sont des faces qui, en général, restent cachées, qui sont tues.
Il y a une forme de résistance aussi chez vous, en tant qu'écrivain, ou de défi à la narration classique. Si je vous pose cette question, c'est que vous laissez beaucoup de place au hasard, quand même, dans ce texte, dans le destin de vos personnages. Mais je me suis demandé, en fait, si vous l'aviez écrit, ce livre, en laissant l'intrigue ouverte, en vous surprenant vous-même aussi, au fur et à mesure de l'écriture.
Oui, mais je ne sais jamais ce qui va se passer. J'ai aucun plan, d'abord, j'ai aucun projet au départ. Je commence vraiment avec cette histoire d'atmosphère, de lieu, et puis des silhouettes qui surgissent et qui vont peu à peu s'incarner, si tant est qu'elles s'incarnent. Et moi, je suis vraiment moi-même dans la surprise de ce qui... Je m'installe à l'intérieur de la pensée du narrateur, et comme toute pensée, celle-ci se déroule avec des sinuosités, des bifurcations...
Ça veut dire que cela se joue aussi au niveau de la phrase, en fait.
Oui, absolument. C'est comme ça que le livre se construit.
Parce que cette phrase, effectivement, ces longues phrases qui semblent elles-mêmes se laisser porter, qui s'étirent en fait avec une liberté assez audacieuse, quand vous les commencez, vous ne savez pas où elles vont se terminer.
Non, absolument pas.
Singulier quand même.
C'est comme ça, c'est extrêmement naturel pour moi d'écrire sur ce tempo-là.
Alors vous le disiez...
Mais parce que je ne décris pas des... Il n'y a pas de péripéties romanesques, il n'y a pas d'événements vraiment... On est toujours dans une pensée... Donc voilà, c'est les méandres de cette pensée. Et si vous observez le flux de la pensée, c'est quelque chose qui ne s'interrompt jamais. Donc moi, il y a un moment, il faut bien que je mette un point. Mais
Ce que je suppute et que vous semblez confirmer aussi, c'est parce que vous l'avez déjà un peu dit, c'est qu'Âme qui vive est d'abord un livre sur le livre, en fait, sur la création, sur la littérature. D'ailleurs, il y a des figures d'écrivains. Des figures liées à la littérature et notamment aussi donc parmi les personnages, vous l'avez dit, mais aussi parmi les fantômes que ces personnages vont rencontrer en Italie où ils vont se rendre. C'est important de faire ce lien entre eux.
Ça c'est une expérience personnelle que j'ai faite au moment où Franco Lucentini s'est jeté dans sa cage d'escalier. Moi, je passais sur l'autoroute au large de Turin. Et j'ai entendu cette nouvelle à la radio. Et bon, j'avais lu quelques livres de ces deux écrivains qui italiens qui écrivaient ensemble, Frutero et Lucentini. Mais c'est surtout le thème du suicide et la modalité de ce suicide qui m'a totalement à la fois glacée et fascinée. Et plus tard, je suis allée à Turin et j'ai fait exactement comme dans le livre. J'ai fait ce pèlerinage dans cet immeuble où tout est resté comme du vivant de Lucentini. Et je suis montée dans cette cage d'escalier dans laquelle on ne peut pas imaginer, étant donné son étroitesse, qu'un homme puisse se jeter. Et je me suis dit, et ce qui me fascinait, c'était à quel stade il faut, enfin, dans quel état on est pour ne même plus tenir compte des modalités de son suicide. Et voilà, l'essentiel, c'est de se jeter dans le vide et de disparaître.
Âme qui vive, Véronique Bizot. Décor très sombre, aride, cette campagne vaguement montagneuse où se joue un quatuor. Pour éclairer un petit peu nos auditeurs, il y a un homme de théâtre qui est donc parti au vert. Il y a un autre plus encore mystérieux qui a pu être un agent secret, mais on n'est pas vraiment sûr. Et puis deux frères, dont l'un, le plus jeune, est le narrateur. Quatre hommes, de la même façon qu'écrire des personnages féminins représentait une expérience vers l'autre pour Jean-Marie Lecléthieu, est-ce que ça l'était aussi pour vous ?
Mais moi, je n'ai jamais écrit qu'avec une voix masculine.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Sans doute parce que j'ai besoin d'être vraiment le plus loin possible de moi. Je ne pourrais absolument pas faire de l'autofiction. Et je n'ai écrit qu'une seule nouvelle avec une femme comme narratrice. Mais c'était une très, très vieille archéologue. Voilà.
Ce qui nie sa féminité ?
Peut-être. C'est comme ça. J'écris, c'est comme une seconde réalité. Et puis ça permet d'explorer. C'est plus facile pour moi de parler à la place d'un homme que d'une femme. Il y a quelque chose de plus laconique, de plus elliptique, il me semble, dans la parole masculine, qui du coup me sert pour mon écriture. Enfin.
Je vous vois sourire, Jean-Marie Lecléthieu.
Oui, je comprends parfaitement. Oui, parce que c'est un... c'est bien, je suis d'accord.
Alors ces quatre personnages masculins, Véronique Bizot, ils vont se croiser, ils vont se rendre visite, ils vont se parler un peu, ils vont même voyager. Dans le monologue intérieur aussi de ce narrateur, l'ironie de la situation dans votre texte, c'est qu'on est seul, mais jamais vraiment en fait. Du moins on tend vers l'autre.
On tend à la fois vers la solitude et on tend à la fois vers le lien. Et je pense que la solitude est fondamentale, la nécessité de la solitude est fondamentale, la nécessité du lien est fondamentale. Ne pas être dans le lien, c'est extrêmement dangereux. Mais ne pas être dans la solitude, c'est également extrêmement dangereux.
C'est ça que dit votre texte ?
Oui, c'est cette espèce de navigation permanente et de contradiction qu'on éprouve entre le besoin d'être avec les autres et le besoin d'être seul.
Alors, qu'est-ce qui fait le lien, précisément, outre ce narrateur ? Est-ce que c'est la littérature, précisément ?
Quand on lit, on est connecté. On n'a pas toujours dans la vie les interlocuteurs qu'il nous faut. Et peut-être que dans les livres, on trouve des vérités, des affects, des beautés qu'on ne trouve pas dans la vie et qui vous aident à vivre.
Parce que c'est ça que raconte aussi un peu le texte. Il se termine, enfin, du moins, il y a une scène dans une bibliothèque. On tend vers une bibliothèque.
Oui, absolument. Et on tend vers l'écriture aussi.
Ça, on va y revenir. Pour vous aussi, la littérature fait le lien et rend le monde intelligible, Nicolas Cavaillès, je me tourne vers vous.
Oui, d'une certaine manière, oui, mais je comprends bien en tout cas le besoin d'isolement des personnages du roman de Véronique Bizot qui est effectivement ce besoin de retrait, d'échapper à... qui peut rejoindre la question du genre, à mon avis, le besoin de sortir d'échapper à une réalité trop superficielle, trop bourgeoise, trop engluée dans une succession de petits événements sans intérêt, peut-être.
C'est une question que je me suis posée en vous lisant, Nicolas Cavaillès, si ce sont des livres qui vous ont guidé, vous aussi, des textes, plutôt que des voyages.
Pour ce livre-ci, oui, un petit peu, mais... Pas tellement. Le voyage, c'était plutôt faire un voyage impossible. Déjà, je rêvais d'une île déserte. Et puis, Bon, une grande partie du roman, enfin, de ce roman aux nouvelles, se passe sur l'île Rodrigue, qui, comme le sait M. Le Clésio, est aujourd'hui qui était autrefois, donc au temps de François Legat, un paradis sur terre, et qui aujourd'hui est une terre livrée à la misère. Il y a une grande sécheresse et qui a des gros problèmes. Enfin, j'y suis jamais allé, mais c'est tout ce que l'on en dit, et c'est. De toute façon, le monde, l'île qu'a décrit François Legat n'existe plus. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a remis en question la véracité de son histoire à lui, de son récit, puisqu'il en a fait un premier récit. Donc voilà, l'écriture peut être une échappatoire dans ce sens-là, permettre de faire un voyage impossible qu'aucun organisme touristique ne pourra proposer.
Vie de Monsieur Legat, Nicolas Cavaillas-Sebeau, premier roman, appelons-le ainsi, que vous avez publié aux éditions du Sonneur. On y revient juste après un extrait sur votre conseil de la bandoline de Couperin, interprétée ici au piano par Georges Chiffra. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Le Carnet d'Or. François Legat est tellement libre qu'il peut faire n'importe quoi, y compris coloniser une île dans l'océan Indien. Est-il jamais monté sur un bateau ? À plus de 50 ans, délivré du souci d'avoir une vie, il peut bien aller mourir à l'autre bout du monde, vomir 5 décennies de terre ferme dans les flots de l'Atlantique, sculpter les poutres d'un temple de fortune sur un rocher désert battu par les vents pour être le premier locataire du cimetière attenant, observer la faune et la flore que Dieu a jusqu'ici protégée de la main de l'homme, s'empoisonner d'un fruit neuf, perdre une lutte féroce avec sanglier sans nom, ou bien se noyer ici ou là, renversé avec son navire par la houle et la tempête, emporté par une vague alors qu'il contemple l'horizon bleu, la lune rousse. Le but ultime en cette vie, le seul, est de faciliter le départ. Soit que l'on se dise avoir bien ou assez vécu, soit que l'on soit certain de ne plus avoir rien à attendre ni à accomplir ici-bas, l'essentiel en ce monde se réduit à lever le plus d'obstacles possible pour en sortir. Et quelque part, Nicolas Cavaillès, cette page de vie de Monsieur Legat, elle suppose qu'il n'y a pas qu'une seule vie, en fait, et certainement pas pour ce Monsieur Legat, qu'il y en a d'autres, qu'il y en aura plusieurs.
Tout à fait, oui. François Legat est un homme ordinaire qui aura eu un destin extraordinaire, puisqu'effectivement, c'est au départ un gentilhomme de Bresse, de France, qui a le malheur d'appartenir à la mauvaise église à cette période-là, et donc qui est contraint à l'exil et a eu une seconde vie ensuite dans l'océan Indien. Une seconde vie qui sera elle-même suivie, puisque par bien des miracles, il arrivera à en revenir. Il y aura encore une troisième vie en Angleterre, cette fois-ci à Londres, dans un quartier glauque de Londres.
Jusqu'à un âge très avancé.
Et en plus, oui, il est donc mort à l'âge de 96 ans, ce qui pour l'époque est encore une prouesse, d'autant plus quand on a passé 8 ans dans des îles désertes.
Comment vous l'avez découvert, ce François Legat, Nicolas Cavaillès?
De manière anecdotique au départ, puisqu'on est originaire du même village qui s'appelle Saint-Jean-sur-Vel, donc en Bresse. Voilà, par curiosité, je suis allé lire son livre, et, puisqu'il a laissé un récit de son voyage. Et c'était un personnage assez méconnu, qui l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'il s'agit pour vous de le réhabiliter?
Pas nécessairement, non. C'est-à-dire que ça rejoignait un questionnement qui était le mien à cette époque, enfin, qui est celui de beaucoup de gens sur le destin, sur les choix qu'on peut faire dans sa vie, sur la mesure de la liberté dans notre existence. Et cet homme qui a été ballotté par les flots pendant toute sa vie, alors qu'il n'avait rien demandé à personne, c'était un exemple plus que parlant. Mais il n'y a pas cette volonté d'édifier qui est le propre de la vie en tant que genre littéraire du 16e, 17e siècle.
Alors il a fallu faire des recherches, je suppose. Beaucoup de recherches, se plonger, vous le disiez tout à l'heure, dans les mémoires d'abord de François Legat. C'est le texte premier, le texte originel pour vous. C'est le texte, votre texte, part d'un texte.
Il part en grande partie de ce texte et de travaux qui ont été faits sur lui et qui ont plusieurs polémiques, puisque, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est compliqué parce que donc, François Legat a laissé un récit de son voyage, mais il a permis à quelqu'un d'autre à l'époque de modifier ce récit, d'en faire quelque chose de plus littéraire, de lui mettre une préface, de rajouter des petites choses ici et là. Il faut bien voir là encore qu'on est avant l'irruption du romancier ou de l'écrivain comme génie romantique qui écrit tout seul et qui... On peut beaucoup plus facilement à cette époque écrire à plusieurs. Donc il a laissé, ce qui nous choque un peu aujourd'hui, il a laissé falsifier son texte et y introduire beaucoup de fausseté. Alors c'est un peu délicat de faire la part des choses aujourd'hui, mais c'est une chose, en soi un travail passionnant qui a été fait par d'autres gens que moi de manière très pertinente et convaincante. Il y avait aussi le problème dont je parlais qui est celui que le fait que François Legat ait décrit des choses qui n'existent plus et que personne n'a vu sinon lui quasiment.
Comme quoi, par exemple ?
On parlait du solitaire, cet oiseau qui s'appelle le solitaire ou le dodo qu'on retrouve chez Lewis Carroll qui a disparu aujourd'hui. Et donc pendant plusieurs siècles, on a cru que c'était une invention. Et c'était intéressant de voir comment une réalité peut basculer dans la fiction.
Chez Lewis Carroll.
Chez Lewis Carroll et d'être accepté comme tel. Et du coup, François Legat lui-même a été l'objet de vives critiques en son temps, parce qu'on a dit que c'était n'importe quoi, qu'il décrivait des animaux complètement farfelus, et en laissant entendre qu'ils existaient vraiment. Mais il y a eu des recherches et quand même d'autres témoignages chez d'autres voyageurs de l'époque. Et puis on a même retrouvé des squelettes de cet oiseau mélancolique et sentimental.
C'est un travail quasi historique en fait que vous décrivez, de vérification des faits, faire la part des choses, vous disiez, par rapport à un mythe en fait.
Oui, un peu. Là encore, c'était pas vraiment mon sujet. Moi, j'ai pu faire des petites recherches plutôt sur ce qui précède et ce qui suit son voyage, parce que c'était des choses moins connues. Mais il y a quand même d'excellents travaux. Il y a eu des attaques très violentes contre le gars et des réhabilitations très convaincantes et très sérieuses qui ont la chance de pouvoir disposer aujourd'hui. Donc, c'était pas l'enjeu de mon travail, enfin de cette écriture à moi.
Alors, quel était l'enjeu, Nicolas Cavaillas ?
La question de la destinée, de cette vie, comme on le disait, le fait de balayer toute une vie en 70 pages, ça fait révéler, ça révèle les renversements, les virages, et dans le fond, toute l'absurdité de ce destin qui fait qu'un homme se trouve propulsé à l'autre bout du monde. Il est ensuite victime d'une injustice incroyable qui fait qu'il se retrouve prisonnier sur un rocher aride pendant 2 ans, alors qu'il n'avait strictement rien fait. Bon, c'était peut-être en finir avec la question de la liberté qui m'avait pas mal occupé par le passé, qui n'est qu'une illusion, en fait.
Est-ce que vous avez laissé la place à l'imagination, à l'imaginaire, dans votre récit ?
Très peu. C'est pour ça que j'ai renoncé à la formule du roman qui aurait imposé que je rajoute beaucoup de choses de manière artificielle. Et ça me semblait déplacé vis-à-vis de Legat. Puis c'était, là non plus, ce n'était pas mon but. Je ne voulais pas non plus rentrer dans... Il y avait le danger d'insuffler des choses trop personnelles dans le texte que je ne voulais pas faire non plus.
C'est une vie quand même assez extraordinaire. Hein. C'est la révocation de l'édit de Nantes, vous l'avez dit, qui bouleverse le parcours de François Legat. Quand il est âgé de 50 ans, sorte d'exil forcé. Et on a cette sensation que l'exil a du bon, quelque part. Au départ, du moins. Que c'est un catalyseur de création, de réflexion, de philosophie. Dans le texte que j'ai lu aussi.
Oui, tout à fait. Bon, pour lui, ça a été une seconde vie et qui a été tout de même magnifique pendant les 2 premières années qu'il a passées sur l'île Rodrigue, donc ce paradis. Il raconte qu'il n'avait même pas besoin de chasser, de pêcher, que tout était la terre de l'abondance naturelle, un climat magnifique. Mmh. Ils étaient donc 8 hommes apparemment à bien s'entendre dans une petite société sans hiérarchie. Il y a un côté utopique et un côté paradisiaque qui est avéré, mais ça s'est très mal passé. Et dans un second temps de leur voyage, ils ont vécu l'envers de la vie insulaire, qui est là, comment le paradis peut devenir un cauchemar, une prison, un enfermement.
C'est un voyage philosophique, en fait.
Peut-être, oui. C'est...
Sous couvert de romans d'aventure.
Un petit peu, oui. Là encore, le genre y invite assez naturellement, puisque le fait de traverser comme ça les décennies, c'est, bon, ça pousse à réfléchir à la question « qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Et puis, il y a un peu la tendance à prendre un point de vue un peu extérieur, qui peut être aussi celui de la mort. Et là encore, c'est l'idée de préparation à la mort me préoccupait aussi, disons, dans l'écriture de ce texte. Donc oui, ça invite à la généralisation. C'est aussi un des sens de l'emploi du temps présent dans le livre, qui permet, bon, à la fois de simplifier, de clarifier la lecture et qui a un charme assez particulier. Mais qui est aussi le présent de l'éternité, le présent des sentences, mais aussi, oui, le présent de l'instant, l'instant éternel et l'instant déjà figé, l'instant déjà mort.
On peut dire que François Legas est porté par un rêve, qui est une sorte d'Éden, qui recherche sans cesse, et dont on comprend au fur et à mesure de la lecture qu'il n'existe pas, cet Éden, comme si sa vie, plus encore qu'un départ, c'était une sorte de tension vers un horizon qu'il n'atteint jamais.
Oui, il l'atteint en partie. Donc pendant les deux premières années, on peut dire que c'est cette vie sur ce paradis. Lui, en fait, ne... Donc ils sont huit sur cette île, l'île Rodrigue, dont ils sont les premiers colons ou colonisateurs, mais le terme n'est pas très flatteur. Occupants, habitants, enfin, c'était vraiment... Lui, il décrit les arbres, les oiseaux, il n'est pas du tout dans l'optique de fonder une cité.
C'est pas Robinson, voilà. Quoi.
C'est le contraire de Robinson à bien des égards. Et surtout, bon, Robinson vit son isolement comme un drame, tandis que François Legas, tant qu'il est sur Rodrigue avec ses quelques compagnons à vivre dans sa maison sous un arbre avec des perroquets, il est très heureux et il ne veut pas partir. Mais c'est les autres qui sont aussi plus jeunes que lui et qui, au bout d'un certain temps, en ont un petit peu marre et qui arrivent à le convaincre de rentrer avec eux quand même. Et ça va être une décision dramatique qui va les plonger dans le cauchemar.
Qu'est-ce qui reste à la fin, Nicolas Cavaillès, de la vie de François Legas? Est-ce que ce n'est pas justement du texte, de l'histoire, du mythe, du langage? Cette vie qui a été racontée encore et encore par ses soins, et puis jusqu'au vôtre, en fait. Plus de trois siècles plus tard, il reste, en fait, de la littérature.
Je ne dirais pas vraiment ça. C'est aussi ce qui m'avait intéressé chez lui, c'était ce rapport au texte écrit, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il a lui-même raconté son voyage, mais ensuite, il a laissé quelqu'un d'autre le falsifier, en faire un autre livre et introduire des choses fausses qui montrent un désintérêt de la chose littéraire. Lui n'était pas du tout écrivain. Bon, peut-être qu'il écrivait très mal et donc que c'est bien que quelqu'un d'autre soit intervenu, mais enfin, moi, contrairement à Mme Bizot, je voulais pas justement que... Je voulais être à rebours de cette dimension métalittéraire qui est souvent le propre de la littérature. Et donc je voulais un personnage qui soit... Oui, désintéressé de ces questions-là, oui. Qui soit au-delà des questions de vérité ou de mensonge et de laisser une trace ou non.
C'est à tous les trois que je vais m'adresser maintenant, Nicolas Cavaillès, Jean-Marie Leclésio et Véronique Bizot. Il nous reste quelques minutes avant de tourner cette page du Carnet d'or. On va terminer comme on a commencé, avec des mots que je vous emprunte, des mots de Véronique Bizot justement que j'ai très malhonnêtement tirés d'âme qui vive et que je vais vous lire. Je prends une feuille de papier vierge et un stylo. Et je me demande par quoi je vais commencer. En fait, Véronique Bizot, ce sont les mots, des mots de la toute dernière phrase de votre roman, Âme qui vive. Et c'est intéressant de finir par un commencement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin et que ça pourrait justement ne pas se finir.
Oui, absolument. C'est ce jeune narrateur qui recouvre la possibilité de parler et qui, en fait, ne va pas tellement en user. Il va plutôt user de la possibilité d'écrire. Ce qui lui permet de rester dans son silence et dans ce silence bénéfique et indispensable.
Jean-Marie Leclésio, chez vous aussi, les destins de vos deux héroïnes, dans Tempête et dans Une femme sans identité, ils semblent être ouverts, sans véritable fin. Pourquoi ?
Je pense que les vies n'ont pas de fin, et donc je ne vois pas pourquoi les textes en auraient.
Elles doivent se terminer par la mort, quand même.
Oui, mais est-ce que c'est une fin, la mort ? En lisant le livre de Madame Bizot, on a l'impression que ce n'est pas une fin, que c'est le commencement d'une autre histoire.
Chez vous aussi, c'est le cas ?
Oui, je pense en effet que la littérature, c'est un rebond par rapport au néant. Maintenant, on ne va pas en faire tout un roman. C'est un rebond qui est indispensable, peut-être pour moi, mais pas forcément pour d'autres. J'aime bien l'idée qu'on puisse lire des livres de n'importe quelle époque, n'importe quand. Ils ne se sont pas terminés, donc pourquoi est-ce que nous terminerions ?
C'est ce que j'essayais de vous dire, Nicolas Cavaillès, en réalité, que quelque part vous poursuivez quelque chose. La vie et les textes qui ont parlé de la vie de ce monsieur Legarde.
Oui, effectivement.
Ça, vous êtes presque rattrapé, quoi.
Oui.
C'est ce qui vous distingue quand même de vos deux confrères ici, c'est que vous, en traitant la vie littéraire, vous mettez un point final, effectivement. Il était impossible pour vous que la fin soit ouverte ?
Dans ce cas-là, oui, parce que la fin était quand même le point culminant, à mon avis, de tout le parcours. Donc, c'était, là encore, contrairement à romancier invité, je savais au contraire là où je voulais arriver, et je ne savais pas vraiment comment j'allais y aller exactement, mais...
C'est-à-dire que c'est la fin de Monsieur Lega qui explicite, qui éclaire sa vie tout entière ?
Enfin, qui oui, non, c'est... Voilà, encore, c'est des grandes banalités philosophiques, mais c'est le point de vue de la mort qui remet toutes les choses à leur place, qui relègue toute la vie dans une sorte d'insignifiance, oui.
On va pas se réconcilier. C'est ainsi qu'on va terminer, tourner cette page du Carnet d'or. Merci à tous les trois. Je rappelle les titres de vos livres. Tempête de Jean-Marie Leclésio aux éditions Gallimard. Âme qui vive de Véronique Bizot chez Actes Sud. Et enfin Vie de Monsieur Lega qui est publié Nicolas Cavaillès aux très belles éditions du Sonneur. C'était le Carnet d'or que je vous invite bien sûr à réécouter et à podcaster sur le site de franceculture.fr. Suivez-nous également sur Facebook et sur Twitter. Partageons le plaisir de lire. Merci Avril Ventura. Merci Isabelle Huel pour la réalisation, à la technique aujourd'hui, Lucas Vaillant. Pour ma part, je vous retrouve dès lundi à 14h55 en compagnie d'une libraire qui nous viendra de Roumanie, Sidonie Mézès de la librairie Kiralina à Bucarest, qui nous conseillera plein de bonnes choses toute la semaine dans le Carnet du libraire. Et puis, rendez-vous samedi prochain, naturellement, même heure, 17h, pour une nouvelle page du Carnet d'or consacrée aux maîtres et aux mentors, avec trois romanciers inspirés, Julia Carninon, Pierre-Yves Leprince et Martin Page. D'ici là, tout de suite, maintenant, ou plutôt dans quelques instants, c'est Xavier La Porte et sa place de la toile, juste après le journal de la rédaction. Vous écoutez France Culture. Vive la littérature.